Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est quelque chose dans l'air depuis quelques années, encore plus depuis quelques mois ou quelques semaines. Cela a commencé avec le débat autour du mariage pour tous qui a permis d'entendre un discours parfois violemment normatif sur la famille. Plus récemment, il y a ces agressions homophobes qui se multiplient depuis quelques mois en pleine rue, en plein Paris, contre des couples d'hommes ou de femmes. Il y a ces déclarations de médecins très défavorables à l'interruption volontaire de grossesse, des déclarations parfois très violentes et qui viennent de très hautes autorités morales. Le débat qui s'annonce sur la PMA, on en parlera, est en train de se radicaliser. L'ordre moral est-il de retour? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Bonjour Clémence Zamora-Cruz.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes porte-parole de l'inter-LGBT, lesbienne, gay, bi et trans. Et bonjour Frédéric Worms.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'École Normale Supérieure et membre du CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique. J'en ai parlé en introduction, j'ai parlé de l'ordre moral. Comment est-ce que, Frédéric Worms, vous pourriez le définir, vous qui êtes philosophe, au moins théoriquement ?
D'abord, la première chose, c'est de critiquer certains usages de la notion, avant même de la définir, parce qu'au fond, je pense qu'on ne peut pas appeler moral tout discours qui prône une certaine violence, une certaine injustice entre les hommes. La morale consiste d'abord à respecter certains principes de justice communs. Et si on peut toujours parler de morale, mais si au nom de telle ou telle morale, d'ailleurs au nom d'un désordre aussi bien que d'un ordre moral, on prône cette violence, je pense qu'on n'a déjà plus dans la morale. Maintenant, ce qui peut le définir plus positivement, je dirais, même si je pense qu'en fait cette notion est toujours prise dans la rhétorique. C'est difficile de la définir sans regarder les usages. Mmh. Elle est toujours prise dans certains usages. Disons que l'ordre moral, c'est une notion qui renvoie toujours à la peur du désordre comme souci pour la vie humaine et pour la justice. C'est comme s'il y avait un ordre a priori et comme si certaines inquiétudes venaient menacer les fondements de l'existence humaine. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes sur certains changements anthropologiques, je dirais. Il y a Internet, il y a des progrès de la technique médicale, il y a des changements vraiment très importants. On a peur de ces changements, mais il faut les limiter, non pas par le recours à un ordre absolu, naturel, fondé, mais plutôt par
et permanent,
le recours à des principes de justice entre les humains. Et je crois que parler d'ordre moral, c'est toujours penser qu'il y a un fondement absolu, et du coup que tout changement est une catastrophe absolue.
Alors voilà pour la définition théorique. Clémence Zamora-Cruz, comment ça se traduit concrètement? C'est une ambiance hostile, des agressions verbales, physiques, c'est...
Comment ça s'est traduit? Ben, on le voit tout au long de notre histoire. Ça s'est traduit par des agressions aussi bien physiques que verbales. Ça s'est traduit par de la haine envers l'autre. Ça s'est traduit également par des positions qui se radicalisent, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et surtout avec un idéalisme du passé, en fait. On idéalise toujours le passé. Avant, c'était mieux. Et ce sont des discours qu'on entend et qui vont justement brutaliser les personnes qui réclament des droits.
Est-ce que les personnes LGBT actuellement dans Paris, qui est réputée être une ville plutôt tolérante historiquement et récemment, est-ce que les personnes LGBT ont peur, Clémence Zamora-Cruz?
Alors, il y a un phénomène qu'on appelle le stress communautaire. C'est-à-dire, le stress communautaire, c'est les agressions physiques, verbales qu'on peut subir en tant que communauté. Donc, on sait bien qu'il y a eu des actions, des menaces, des agressions aussi bien physiques et verbales qui sont produites à Paris même. Donc, on pense toujours qu'à Paris, on pensait avant qu'à Paris, on était protégé, mais ce n'était pas le cas. C'était simplement caché, parfois les victimes s'étaient, n'osent pas parler, n'osent pas porter plainte. Et puis, il y a eu aussi cette libération de la parole des personnes qui ont été brutalisées. Et donc, on a vu qu'il y a eu plusieurs cas à Paris même d'agressions aussi bien physiques.
Frédéric Morve, vous voulez réagir?
Ce qui me frappe, c'est, admettons que certains de ces actes qu'on vient d'entendre et qu'il faut critiquer, et admettons qu'ils aient été motivés par un discours sur l'ordre moral, parce que c'est ça le lien que vous faites, finalement très direct. Directement, et c'est possible, en effet, puisqu'il y a des discours sur l'ordre moral qui viennent condamner certains êtres humains, non pas en fonction de leurs actes, ce qui est pourtant ça le principe de la morale, mais en fonction de leur être et de leur mode de vie. Et on rejoint ce que je disais au début. Si c'est un discours sur l'ordre moral qui a justifié des actes immoraux, alors il faut critiquer peut-être pas la notion dans l'absolu, parce que je ne sais pas si elle a un sens, d'ailleurs, c'est une question philosophique, mais en tout cas l'usage de cette notion qui a conduit à ces actes. Et la première chose qu'on devrait dire, c'est que la morale ou l'éthique consiste d'abord à respecter des principes communs entre tous les êtres humains, et non pas à imposer sa conception de l'ordre moral avec des actes immoraux.
Et la démocratie, quelque part, c'est la protection des minorités, hein. On peut dire ça aussi, Frédéric Worms ?
Bien sûr, c'est la protection des êtres humains en général, c'est la définition des limites de la liberté des uns par la liberté des autres, et donc de l'opinion majoritaire aussi, contre l'imposition de cette opinion sur un contenu donné aux autres. Après, il y a quand même des principes communs dans une démocratie, bien sûr. On n'a pas le droit, justement, de tuer, d'insulter, de discriminer, etc. Donc, il ne faut pas croire que la critique d'un certain discours moral empêche tout discours moral, parce que c'est ça aussi l'usage de cette notion. Si vous êtes contre l'ordre moral, vous êtes contre la morale. Eh bien non, au contraire. Mmh. Il faut être pour des principes moraux et politiques, mais pas n'importe lesquels.
Oui. Clémence Zamora-Cruz, vous avez commencé à en parler. Est-ce que depuis ces agressions physiques, verbales, les couples homosexuels, qu'ils soient hommes ou femmes, ou les trans ont tendance à quitter un peu l'espace public et à se cacher. Est-ce qu'on se cache depuis qu'il y a eu ces problèmes ?
Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est le fait qu'on dénonce les rhétoriques des haines envers les personnes LGBT, et aussi le fait qu'on encourage les personnes LGBT à porter plainte et à, justement, à visibiliser ces agressions. Donc, on a deux phénomènes qui sont assez complémentaires. D'un côté, il y a cette libération de la parole qui est très stigmatisante, et de l'autre côté, les victimes qui libère également la parole, qui la libère parce que il y a aussi des avancées dans la loi, qu'on les fait connaître. On sait très bien que l'homophobie est punie par la loi, la transphobie également, et donc ce sont des mécanismes qu'on peut utiliser aussi bien politiquement que judiciairement. Malheureusement, on est dans une situation où il y a la rhétorique qui s'impose dans un débat public, et on le voit également avec des prises de position politiques qui sont populistes, en fait, et qui manipulent l'émotion, en fait. Parce que aussi l'ordre moral, c'est aussi manipuler les émotions.
Frédéric Worms, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'on entende de plus en plus des discours très normatifs, par exemple sur la famille? Une famille, c'est un papa, une maman, c'est ce qu'on entend. Alors qu'à l'évidence, y a des familles très différentes aujourd'hui. Ça, c'est des faits. Pourquoi est-ce qu'on tente d'imposer politiquement et dans la société ce discours très normatif ?
Y a plusieurs explications. C'est vrai qu'il faut pas se dérober devant ce danger qui est très grave aujourd'hui. Il y a évidemment des changements dans les modes de vie. Il y a des techniques qui permettent des familles différentes, puisque maintenant des couples de femmes peuvent avoir un enfant par la PMA. Dans certains pays, les couples d'homosexuels masculins peuvent recourir à la gestation pour autrui. Donc il y a objectivement des changements. Et donc la question, c'est pas seulement de savoir si ces changements portent atteinte à une nature. Ça, c'est un débat philosophique dont certains peuvent se saisir, et c'est toujours un sujet. La question, c'est de savoir si, au nom de l'opinion qu'on a sur ce thème philosophique, on peut imposer, critiquer non seulement certains actes. Parce que, par exemple, moi, je fais la différence entre certains actes de procréation assistée. On peut critiquer certains et en approuver d'autres. Mais certains modes de vie en tant que tels. Et ça devient, sur le fond de certaines peurs, certains changements, on passe à la référence à une nature et on se sert pour imposer ça à autrui. Il faudrait partir plutôt de la justice entre les humains, quel que soit leur mode de vie, et après déterminer des pratiques qui peuvent faire violence, des pratiques qu'on peut critiquer en tant que pratique, pas en tant qu'un mode de vie, une essence. C'est toujours l'essentialisation des autres qui justifie la violence.
Qui dit ordre moral pense quasiment automatiquement à la religion. La France est un des pays au monde où le nombre de gens qui se déclarent sans religion est pourtant très important. Il y a quelques jours, les représentants des trois grandes religions monothéistes participaient à une table ronde à l'Assemblée et posaient la question pure et simple de l'opportunité d'une révision de la loi sur la bioéthique. Est-ce que l'on écoute trop les représentants religieux dans ces affaires de société, Clémence Zamora-Cruz ?
Oui, on est... on pense qu'on est dans un pays laïque, mais en fait, on est quand même toujours imprégné de cette rhétorique qui fait des boucs émissaires, en fait. Quand on parle de la rhétorique qui est utilisée en politique également, évidemment, on ne peut pas être inquiet de la situation dans laquelle se trouvent certaines populations, les minorités. Et par exemple, quand on prend un exemple, c'est l'exemple de M. Wauquiez qui part de la PMA, qui fait un rapprochement avec le jeunisme et qui en plus fait un rapprochement avec le régime nazi. Donc c'est une rhétorique qui est assez déjà c'est insultant déjà pour les victimes du nazisme. En plus, elle est révoltante de l'utiliser comme si c'était un débat dans un débat normal d'utiliser ce genre de rapprochements. Et mais dans les boucs émissaires, on est en train de parler des personnes LGBT, mais il y a aussi d'autres populations qui sont dans cette situation. Et on les voit bien dans l'actualité, hein, quand on voit ce qui s'est passé ce week-end avec des manifestations où il y a eu du racisme, où il y a eu de l'antisémitisme, où il y a eu de l'islamophobie. Donc tout cela est alimenté par des rhétoriques aussi bien politiques que des mouvements qui vont à l'encontre des minorités.
Frédéric Worms, vous vouliez réagir sur cette question de la place des religions.
Oui, moi je ne ferai pas cette identification tout de suite entre les religions et l'ordre moral, ou disons entre les religions et les usages violents de la notion d'ordre moral. La plupart des religions renvoient à des fondements absolus de la nature humaine et de la morale. C'est leur droit, j'allais dire. La question, c'est plutôt dans un espace.
Ils ont droit d'avoir une vision du monde, voilà.
Bien sûr.
Après,
c'est fondamental. Non, mais il faut distinguer les croyants qui croient ça, et ils sont pas tous en train de tabasser ceux qui sont pas d'accord avec eux ou de faire des discriminations.
Absolument.
Notre rôle, en tant qu'institution, à tous, des institutions de toutes sortes d'ailleurs, c'est de justement permettre la coexistence des points de vue et de construire une éthique qui partage des limites communes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les religions en tant que telles, avec les gens qui défendent des principes, c'est plutôt les manipulateurs politiques de ces notions-là qui en font des usages violents. Et là, ce qui m'inquiète véritablement, et je pense que sur cette chaîne, vous suivez ça de très près, c'est qu'il y a aujourd'hui des éléments de langage, comme on dit, qui circulent de manière internationale entre certains discours extrêmes, je dirais même pas populistes, ce serait trop dur pour le populisme, mais certains discours extrêmes qui se sont focalisés sur certains sujet. Alors il y a les frontières, par exemple l'identité nationale, mais il y a aussi cet usage de l'ordre moral, cet usage de certaines croyances légitimes de des gens qui peuvent croire qu'il y a une nature, mais on leur dit, il y a une nature, certains vont la détruire, c'est la fin de la civilisation occidentale, ou de toute civilisation, et au nom de ça, vous devez critiquer, voire violenter, voire tuer ceux qui sont pas d'accord avec vous, ou qui vivent différemment. Ce sont ces usages-là qui sont extrêmement dangereux, et je pense que la responsabilité de tous, et d'ailleurs les églises en France très souvent le disent, elles font rempart, malgré tout, un peu contre certains usages, et je crois qu'il faut le dire. Faut pas confondre. Les vrais dangers, ce sont les agitateurs politiques, et je dirais même pas les hommes politiques démocrates en France. Certains dérapent. Ça peut arriver, et c'est arrivé encore tout récemment. Mais le danger
vient... souvent.
Ça arrive. Ils sont soumis aux mêmes éléments. Et malheureusement, ces éléments de langage qui viennent tantôt de la Russie, tantôt de certains pays dominés par le théologico-politique, c'est vrai. Certains, parfois, des États-Unis, maintenant. Il y a vraiment ces éléments de langage. Et à la phrase près, si vous voulez. Et qui disent, justement, il y a une nature. OK, ils ont le droit d'y croire, hein, comme les religions dans tout pays démocratique. Mais au nom de cela, imposer un ordre non pas moral, mais totalitaire en réalité.
Comment est-ce qu'on peut interpréter, Clément Zamora-Cruz, comment est-ce que vous interprétez le report de la présentation du projet de loi sur la bioéthique et donc l'extension de la PMA à toutes les femmes? Est-ce que c'est pour vous une volonté d'apaisement face à un débat qui peut-être se radicalise, ou est-ce que c'est un recul pur et simple?
Je pense qu'il y a des reculs. Donc ça fait quand même des années qu'on attend cette PMA. À chaque fois, on nous donne une nouvelle échéance. À chaque fois, on nous dit oui, mais. Et donc, à chaque fois, le mais est rapporté et l'emporte sur les résultats qu'on attend. Par exemple, l'avis des scientifiques. On nous dit qu'on va avoir un débat sur la bioéthique. Et on attend des avis divers à droite, à gauche. Et à chaque fois, on le rapporte. On le rapporte parce que il y a, je pense qu'actuellement le gouvernement a peur de son ombre, et justement le fait qu'il y a des rhétoriques qui sont dans la société qui font peur aux politiques. Donc il y a un manque de courage politique, et quand on entend justement des gens qui sont contre la PMA, ils sont toujours en train de parler la même chose, de dire, de répéter les mêmes stigmatisations, sans vraiment utiliser les LGBT-phobies, des termes bien LGBT-phobes. En fait, ils cachent tout la rhétorique derrière dans des discours bien lissés. Et c'est très dangereux que les politiques entrent dans ces jeux, en fait, et qu'ils reprennent des abus de langage et des termes utilisés par ce type de personnes.
Sur l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple avec d'autres femmes, le CCNE dont vous faites partie, Frédéric Worms, s'est prononcé pour. Les sondages indiquent que les personnes interrogées sont majoritairement pour, et pourtant... Bah, c'est un autre discours qui parvient à se faire entendre dans les débats sur la bioéthique qu'il y a eu il y a quelques mois. C'est surtout ce discours-là, un peu traditionnel, qui a été entendu. Pourquoi, selon vous ?
Je crois pas. Vous venez d'ailleurs de rappeler que le comité d'éthique a pris une position pour, en tout cas, la procréation médicalement assistée, en effet, pour les couples de femmes. Donc on voit bien qu'il y a un débat, malgré tout. Il y a du pour et du contre. Ce qui me frappe, c'est, et ça, c'est totalement légitime. Et le débat parlementaire viendra, et c'est pas à moi, en tout cas, de critiquer un report. Je pense qu'il y a un cadre public. Et moi, je pense que la procédure est aussi importante que le contenu dans ces sujets très délicats. Et donc il faut absolument respecter les procédures républicaines. Il faut pas seulement vouloir ceci ou cela, il y a un cadre, bon, il y a sans doute aussi des agendas politiques. Moi, par contre, il ne faut pas se dérober non plus, c'est vrai que je pense que, des deux côtés parfois, mais en ce moment plus du côté du contre, disons, il y a des dérives, et ça franchit les seuils qu'on disait, c'est-à-dire aller au-delà du désaccord, vers l'insulte, la discrimination, etc. Je pense qu'il ne faut évidemment pas que la République se laisse intimider par ses excès, par contre qu'elle assume le débat, et ça viendra quand ça viendra. Je pense que ce qui est important, moi je suis dans une instance qui joue un rôle de médiation entre, par exemple, les techniques scientifiques et les décisions politiques. On ne passe pas, il ne faut pas paniquer les gens, parce qu'il y a des gens qui les paniquent, qui aident à la panique des autres, et il ne faut pas croire qu'on passe directement de la technique à une application. Il y a tout un tas d'instances intermédiaires. Le fait qu'on prenne du temps, même s'il peut y avoir un effet d'intimidation de certains discours excessifs et violents, je pense que c'est n'est pas si mal en soi, parce qu'il faut construire le cadre pour que le débat ne déborde pas, justement. Par contre, il faut effectivement, et je pense que la loi, vous savez que la loi de bioéthique en France comporte des délais. Mm-hmm. La dernière a été votée en 2011, elle devait être renouvelée en 2018. Donc il y a une limite, et ça viendra forcément, puisque la loi exige son propre renouvellement.
Oui, le problème des débats, ce n'est pas le débat en soi-même, le problème c'est les délais qu'on a avec ces débats.
Le délai en tant que tel n'est pas si grave, les excès par contre.
On est dans une situation, si on regarde de façon pragmatique la situation, on est dans une situation d'urgence. Il y a des personnes qui partent à l'étranger, qui ont des ruptures de suivi médical. On a aussi une injustice sociale, une injustice économique, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de partir à l'étranger pour faire une PMA, et d'autres qui peuvent faire des fausses couches. Donc on est dans une situation d'urgence. On est en train de mettre en danger la santé des personnes. Et donc ça doit l'emporter, en fait, le fait que ce soit une urgence médicale.
Mais pour moi, la plus grande urgence, c'est d'éviter la violence, comme on l'a dit depuis le début de l'émission. Et donc je pense que construire le cadre nécessite aussi du temps. Par contre, effectivement, les discours qui appellent à la haine, s'il y avait une intimidation par des discours excessifs, ce serait évidemment pas la bonne raison de reporter le débat. On est toujours pris entre deux urgences.
Mais ce type de situation, on l'a déjà vécu pendant les débats du mariage pour tous. C'est-à-dire le fait qu'on installe des débats qui sont très longs.
Mais sans se laisser intimider par la violence, faut pas non plus céder à toutes les urgences.
Mais on le voit aussi avec l'augmentation des violences envers les personnes LGBT.
Merci beaucoup Clémence Zamora-Cruz et Frédéric Worms d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Participez également au débat du jour sur les réseaux sociaux, mais dans le respect, bien sûr. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.